un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que ça en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la lit, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Hola, 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 vous êtes bien sur Radio Canu, il est l'heure d'un petit Canu Info du jeudi, nous sommes le jeudi 24 octobre et ça y est, ça caille. Voilà, ça c'était pour la partie météo de ce Canu Info. Laurent, vas-tu bien ce soir?
Ouais, ça va.
Ça va, alors ce soir nous ferons une grosse actu Israël-Palestine, nous partirons en Suisse, nous parlons de vaccins, on parlera d'Apple et puis nous aurons une grosse partie sur l'actu du patronat. Parce que alors, cette semaine, ça tombe encore, sans jeu de mots. Et on parlera d'Oelland, on parlera de médias, et puis de TGV, tchou-tchou, voilà.
Non, ça ne fait pas tchou-tchou, le TGV, dommage, c'est électrique, le TGV. Nucléaire, le TGV, il est.
Et bien, on va commencer tout de suite plutôt par notre partie internationale. Alors, sur Israël et Palestine.
Tout à fait. Alors, je commence en ouvrant sur quelques nouvelles et quelques petits exemples d'exactions commises par des colons. Par exemple, c'est l'histoire de Mohamed Sadiq Nebi. Donc, il est pas loin de Hébron. Il a une oliveraie et depuis 5 ans, il subit des agressions très régulières de la part des colons israéliens. Donc, il en a eu marre. Hein, les agressions, c'est-à-dire, ils viennent couper, brûler ses oliviers, des choses comme ça. Il a demandé à l'État d'Israël, puisqu'il est obligé de demander à l'État d'Israël, oui, on est en Palestine occupée, de pouvoir construire une clôture autour de son oliveraie. L'État israélien lui a dit, bah oui, pour vous protéger, vous avez le droit de construire une clôture. Il a construit une clôture et il a vu débouler, ça fait à peu près une semaine que ça se passe, des dizaines et des dizaines de colons qui viennent tout détruire, sa clôture qui vient juste de construire avec l'autorisation de l'État d'Israël. Et pourtant, les forces israéliennes sont présentes puisque les soldats sont là, il y a des photos, il y a même un petit film qui montre les colons tout détruire en... devant les sourires des soldats israéliens qui respectent même pas les règles de leur propre pays et les lois, puisque ça avait été décidé par la justice. Donc Mohamed, il est complètement détruit par tout ça. Et les soldats lui ont répondu un truc assez drôle. Ils lui ont dit, mais si vous aviez pas construit cette clôture, les colons n'auraient pas eu envie de la détruire. Oui, mais c'est, les soldats ont vraiment le cuit d'une poule, tout en respectant les poules, bien évidemment, mais quand même, ils auraient pu comprendre qu'il a construit la clôture pour empêcher les colons de détruire ses oliviers. et les colons qui maintenant détruisent sa clôture avant, bien sûr, de continuer de détruire ses oliviers. Donc tout va bien en Cisjordanie occupée. Alors un petit peu autre chose, c'est, ça s'est passé il y a trois jours, le 20 octobre, un colon israélien a renversé une fillette de 5 ans. En fait, il a renversé deux personnes, un jeune garçon et une fillette. Donc c'était sur la route principale près du village où ils habitaient, donc pas loin de Ramallah, grosso modo, donc en Cisjordanie, pas du tout en territoire israélien. Donc le colon arrive, il les renverse, donc ambulance, hôpital, la jeune fille va mourir, fillette de 5 ans, donc assassinée par ce colon. Pas de réaction des autorités israéliennes. Si on refait un petit retour en arrière comme ça sur les différents accidents, les différents attentats à la voiture que pratiquent les colons israéliens. On a par exemple le 29 septembre, un colon va renverser un jeune homme, Islam Bassim Al-Amour, 6 ans, ça c'est au sud d'Hébron. Le 7 août, une fillette palestinienne de 8 ans a été renversée là aussi par des colons israéliens près d'Hébron. Si on va un peu plus près, le 14 août, un palestinien de 23 ans a été renversé et est mort des suites de ses blessures par un colon. Enfin voilà, il y en a des dizaines et des dizaines. Grosso modo, tous les accidents que je viens de citer ne sont pas des accidents, puisque les témoins racontent que avoir vu les voitures foncer délibérément dans les personnes. Voilà. Et ça ne fait pas réagir ni la justice israélienne, ni la police israélienne, ni l'armée israélienne. On est en Cisjordanie occupée. Les colons ont le droit de vie et de mort sur les Palestiniens. Alors, bizarrement, quand il arrive la même chose de l'autre côté, puisque c'est ce qui est arrivé à Jérusalem, occupé, un Palestinien a foncé avec sa voiture et a blessé et tué notamment une petite fille. Là, réaction énorme de la part du gouvernement israélien, notamment du Benjamin Netanyahou, qui est Premier ministre, et qui a mis en garde contre toute tentative d'attaque à Jérusalem. Et pour citer la phrase qu'il a dit, c'est la phrase horrible, il a dit « Jérusalem unifiée était et restera la capitale d'Israël pour l'éternité. Toute tentative d'attaquer des habitants de Jérusalem sera sévèrement punie. » Donc lui, il est pour que ces sous-fifres là, ces citoyens israéliens aillent avec leur voiture assassiner des fillettes palestiniennes. Par contre, quand un Palestinien fait la même chose, c'est un scandale. Or, pourtant, il s'agit bien de deux choses horribles faites et condamnables à la même échelle, mais Netanyahou, qui est un révisionniste, un notoire, puisqu'il a quand même osé dire que Jérusalem unifiée était et restera la capitale d'Israël. Or, on ne peut pas dire que Jérusalem était la capitale d'Israël avant 1948. Hein ? Eh bien si, pour lui si, pour rappeler que ça a toujours été la capitale d'Israël. Donc c'est un révisionniste, quelqu'un d'extrême droite, et qui estime que la vie des petites enfants palestiniennes est méprisable et face à la vie des Israéliens. Donc voilà un énorme racisme de la part d'un gouvernement raciste d'extrême droite. Hein, donc il n'y a pas de surprise là-dessus, mais c'est pour rappeler cette chose, puisque dans les médias, notamment israéliens, l'attaque à la voiture de ce Palestinien est mise en exergue systématiquement, et jamais ils ne mettent en parallèle pour cette attaque les dizaines, voire de centaines d'attaques de colons avec les mêmes conséquences, les mêmes outils, les mêmes armes. La voiture, c'est la première arme utilisée pour tuer les gens dans les démocraties, hein, beaucoup plus que les armes à feu. Donc voilà, c'était pour dénoncer ce deux poids, deux mesures de ce gouvernement colonialiste israélien.
En face, on a le Fatah qui tombe dans le ridicule sur sa page Facebook en appelant à l'héroïsme de ce martyr. Voilà, c'est...
Fatah et le Hamas, d'ailleurs.
Ouais, mais c'est vrai que le Fatah, ils sont un petit peu meilleurs quand même que le Hamas au niveau de la propagande sur Internet. Et c'est vrai qu'ils s'en sont donnés à cœur joie. Et là, c'est quand même aussi absolument du grand n'importe quoi. Alors on va rester en Israël et on va parler du droit des femmes, on va parler de la campagne des femmes du Kotel. Le Kotel, c'est le mur occidental, hein. Le Kotel c'est en hébreu. Alors c'est une organisation de femmes qui souhaite, qui milite pour un judaïsme sans discrimination. Donc elles ont lancé une campagne de pub sur les autobus à Jérusalem la semaine dernière. On voit sur l'affiche des fillettes, hein, des adolescentes, avec le châle de prière, tenant le rouleau de la Torah, et qui sont devant ce mur. Le slogan de cette campagne, c'est « Maman, je veux une bat mitzvah au Kotel, moi aussi ». Pourquoi ? Ben parce que les femmes, elles y sont interdites pour pratiquer un certain nombre d'actes de rendez-vous religieux.
Bah déjà, elles ont une partie quand même.
Ah ouais, mais petite, rappelons-le, tout petit.
Tout petit.
Et il y a un certain nombre de rendez-vous religieux qu'elles ne peuvent pas mener, donc elles se battent pour avoir les mêmes droits que les hommes. Alors, il faut savoir que c'est une campagne qui a eu un effet, mais pas tout à l'effet, l'effet peut-être qu'elles escomptaient, puisque les bus ont été complètement dégradés, c'est les bus qui portaient cette campagne. Alors, les pubs ont été recouvertes de peinture, mais ils sont même allés jusqu'à les opposants crever les pneus de ces bus. Enfin, on tombe quand même dans un certain radicalisme voilà, il faut absolument effacer cette campagne. Alors, il faut savoir qu'en une semaine, c'est 50% des affiches qui ont été dégradées, donc c'est quand même beaucoup. L'organisation des femmes du Kotel, dans un communiqué, explique, écrit « Il est triste de voir encore une fois les citoyens ultra-orthodoxes s'accaparer la loi et utiliser le judaïsme comme une excuse pour utiliser la force, les menaces et la violence contre les femmes. Nous appelons les dirigeants ultra-orthodoxes à dénoncer fermement cet acte de violence, ainsi que tous les autres. » Le problème, il est bien là, c'est que les autorités religieuses et politiques, elles détournent le regard sur les discriminations sociales, religieuses, économiques que subissent les femmes en Israël, d'une manière générale.
Oui, mais alors, moi, ce que je ne comprends pas dans ces femmes du Kotel, c'est que c'est logique que les hommes agissent comme ça, puisque dans les textes religieux qu'ils respectent, la femme ne représente rien du tout. On vous rappelle quand même que la première prière que les hommes font le matin, ils remercient Dieu de ne pas les avoir fait femmes, et après, ça explique toute la discrimination. Donc, elles, comment elles peuvent être à la fois
parce qu'elles sont pas ultra orthodoxes, et ce qu'elles elles amènent aussi, c'est que c'est un point, évidemment, elles se battent sur cette question du mur par rapport à leur religion. Effectivement, elles souhaitent une religion qui soit pas extrémiste, fondamentaliste, mais elles se battent aussi sur d'autres sujets, sur l'implication des femmes, en particulier à Jérusalem. Et donc, effectivement, elles sont d'abord là à propos du mur, mais pas seulement. Mais effectivement, comme tu le soulignes, on est dans un rapport au fondamentalisme, et c'est compliqué malgré tout d'arriver à avoir une autre existence par rapport à des textes qui se servent ces hommes au quotidien aussi, quoi.
Ouais, parce que leur religion, elle est basée sur, avec, enfin, il y a plein de parties sur où la femme, elle a un rôle vraiment inférieur à l'homme, hein. On rappelle que dans le judaïsme, la femme, c'est elle qui travaille et c'est elle qui élève les enfants, puisque l'homme, lui, doit passer sa journée et étudier la Torah. Je trouve ça incohérent, leur lutte, ou perdue d'avance, parce que les textes religieux qu'elles défendent quelque part sont contre elles. Donc il faudrait faire changer les textes religieux, c'est-à-dire changer la religion elle-même. Or, a priori, elles ne s'attaquent pas à la religion elle-même, elles s'attaquent simplement aux dingues. Sauf que le croyant israélien, enfin juif normal, il est censé respecter ces textes qui sont hyper discriminants vis-à-vis des femmes. Donc voilà, moi j'ai toujours trouvé leur lutte un peu bizarre, mais peut-être qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles peuvent peut-être pas demander la réécriture des textes religieux avec une égalité homme-femme, et du coup elles se battent sur des points, pas des points de détail, mais sur des petites parties. Donc elles ont gagné un bout de mur, elles voudraient pouvoir y faire plus de choses, mais c'est quand même un combat qui semble dérisoire dans une religion où la femme est 100% méprisée. On rappelle qu'elles mettent des perruques pour pas montrer leurs cheveux, que voilà, elles ont pas droit aux pantalons. Enfin bon, il y a des trucs pas mal chez les juifs orthodoxes, notamment de Jérusalem. Enfin voilà.
On va continuer. Non, on va continuer avec Israël toujours, mais on va parler un petit peu de censure et d'aéroport.
Oui, et puis ça vient de chez nous, hein, c'est un BDiste français. Maximilien Leroy, hein, qui a écrit une BD en fait autour d'Israël et de la Palestine, de l'occupation palestinienne. Je ne me rappelle plus d'ailleurs le nom de sa BD, il y avait Mur dedans. Faites le Mur, voilà, c'était ça. Donc il était invité au festival de BD de Jérusalem pour présenter cette BD. Il avait participé aussi à la BD collective sur Gaza, sur la guerre de 2008-2009. Et forcément, comme beaucoup de gens, quand on se fait repérer, qu'on arrive à l'aéroport, eh ben, ils ne nous laissent pas rentrer. Ça, on connaît tous. Ceux qui sont déjà allés ont déjà eu le stress d'être arrêté, de pas pouvoir rentrer en Israël. En dehors, c'est contraire à toutes les lois internationales, hein, puisqu'à un moment, il n'y a pas de visa. Un État est obligé d'accepter tous les gens qui arrivent sur son territoire et qui sont pas hors la loi. Et il n'était pas hors la loi. Donc il a subi quelques heures d'interrogation, hein, 4, c'est une bonne moyenne, hein, en général c'est bien ça, où ils lui ont expliqué qu'il n'était pas bienvenu. Grosso modo, ils lui ont dit, les soldats, vous pouvez dire du mal de nous, c'est-à-dire d'Israël, autant que vous voulez dans votre pays, mais plus ici. Donc ils l'ont remis, manu militari, dans un avion. Donc Maximilien Leroy est rentré directement en France, sans assister au festival de BD à Jérusalem, alors qu'il y a un renouveau, hein, de la BD, ou un décollage de la BD israélienne ces dernières années, avec des BD assez intéressantes, notamment des BD d'auteurs. Mais bon, voilà, lui, il a pas eu le droit de participer à ce festival. Or, c'est récemment, c'est pas le seul. Il y a le photographe Mouna Saboni qui travaille sur un projet artistique et photographique dans un camp de réfugiés palestiniens, qui avait été refoulé. Donc, elle, ils l'ont d'abord mis en prison carrément. Enfin, vous savez, dans les centres de détention qu'il y a dans certains aéroports, notamment dans l'aéroport Ben Gurion. Et puis après, ils l'ont renvoyé chez elle, c'est-à-dire ici, en lui reprochant d'avoir un profil de poseur de bombes. Oui, c'est un appareil photo. C'est toujours dangereux, tout ça, on travaille avec les réfugiés palestiniens. Donc voilà, cette attitude méprisante, raciste de l'État d'Israël gêne un peu tout le monde, mais personne n'a le courage de le dénoncer, notamment au niveau du gouvernement français ou de la représentation du gouvernement français en Israël, c'est-à-dire l'ambassade ou les consulats. Par derrière, quand on pose des questions, effectivement, ils disent que ouais, ils en ont marre que des touristes ou même des journalistes, des photographes, des artistes soient refoulés d'Israël. Mais quand il faut parler devant, d'aller voir d'autres ambassadeurs, des politiques, il n'y a plus personne. Donc du coup, rien n'évolue. Il faut savoir que là, les deux personnes qui ont été refoulées, donc le bédéiste et la photographe, étaient quand même quelque part des militants, donc des gens qui y allaient avec une certaine idée, une certaine image, du côté des... Voilà, ils étaient officiellement du côté des Palestiniens. Donc eux, quelque part, ils sont refoulés en tant que militants, hein, et l'État d'Israël est un État qui n'aime pas du tout les militants. Mais on a aussi quand même plein de gens qui vont faire du tourisme sans avoir jamais été militants de leur vie et qui se font refouler. Eux, il n'y a même pas d'excuse, c'est juste que l'État d'Israël fait du délit de faciès et refoule plein de personnes. Donc voilà, Maximilien Leroy est rentré sans visiter Jérusalem. Enfin, il était déjà allé. Alors, ce qui est atroce pour lui, c'est qu'il interdit 10 ans de venir en Israël. Mais lui, il voudrait y retourner, mais pas aller en Israël. Lui, il voudrait retourner en Palestine. Sauf que la Palestine n'existe pas. Et pour entrer en Cisjordanie, il faut passer par Israël. Et ben oui, quand un État est colonisé par un autre, on est obligé de passer par le colonisateur pour aller dans l'autre État.
Alors on va partir ailleurs, on va partir en Suisse, parce qu'ils sont pas des belles en Suisse. Alors cette semaine en Suisse alémanique, les consommateurs de café ont eu le plaisir de découvrir des petites portions de crème avec dessus sous l'opercule la tête de Mussolini et d'Hitler.
Oui. Alors, soit c'est une blague de mauvais goût, soit il y a un souci.
Il y a un souci, Kama, ouais, voilà. Alors, c'est le 20 minutes suisse hein, qui a rapporté l'affaire. C'est en fait un lecteur qui avait contacté la rédaction, qui s'est retrouvé avec son petit café, habituellement servi donc avec cette petite dosette de crème, c'est opercule quand même un peu particulière. Alors, c'est une filiale du groupe Migros en Suisse qui a fait la distribution de cette chose. Alors, il faut savoir que, allez savoir pourquoi, j'ai découvert que les opercules de ces petites dosettes de crème avaient des collectionneurs. Oui. Et donc, dessus, il y a toujours des petits dessins. Voilà. Et donc là, ça fait partie d'une série qui s'appelle Cigar Bands, qui propose donc sur les opercules, des personnages de l'histoire contemporaine. Il y a 55 dessins différents et il y en a deux, donc à l'effigie de Hitler et de Mussolini.
C'est vrai qu'ils font vraiment partie de l'histoire contemporaine.
Oui, voilà, ça déjà, ça s'est fait. Alors, donc, ces opercules, elles ont été produites par la société Caro Versand, qui est spécialisée dans la fabrication de ces petites choses, et qui ont ensuite été utilisées par la société Elsa. Alors, il faut savoir que le groupe Migros, qui a distribué ces choses, est en train de récupérer ces petites dosettes. Alors, il y avait 300 cartons à 200 dosettes. On estime qu'il y a à peu près 2000 dosettes avec la tête donc, de Hitler et Mussolini dessus. Alors, l'entreprise Migros a déclaré avoir rompu radicalement et définitivement ses relations avec l'entreprise Caro Versand. Alors, il faut dire que le patron de cette entreprise Caro Versand a des grandes idées, puisqu'en fait, il n'a pas vu où était le problème. Il est surpris du tapage médiatique et il explique, bien entendu, que c'est terrible ce qui s'est passé à l'époque d'Hitler. Mais c'est une partie de l'histoire qu'on ne peut ignorer. C'est vrai, ça. Donc, c'est normal qu'on ait la tête d'Hitler et de Mussolini sur des petites peaux.
À la rigueur, il aurait barré leur gueule en mettant criminel de guerre, assassin ou un truc comme ça. Voilà, on aurait pu accepter, mais là, effectivement, du coup, ça va déclencher l'idolâtrie chez toute l'extrême droite qui a dû jeter sur ce café pour essayer d'avoir l'opercule Mussolini ou l'opercule Hitler, ce qui est quand même assez horrible.
C'est pour ça que Migros réagit promptement et je pense essaye de récupérer ça très très rapidement. Reste que c'est quand même une drôle d'idée de la part de cette entreprise, de ce patron d'entreprise, d'insérer des personnages historiques sur des pots de crème, hein, quand même, il faut dire.
Parce que
c'est un peu particulier.
Voilà, on a le droit d'utiliser l'image d'Hitler ou de Mussolini si on fait un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Il n'y a pas de souci, c'est une utilisation historique. Là.
Alors lui, il a dit qu'il ne voyait pas la différence entre utiliser Hitler dans un documentaire ou sur des pots de crème. Ouais, il l'a déclaré.
Là, il n'y a pas l'explication sur les pots de crème.
Non, puis il ne voit pas la différence. Donc, c'est ça qui est peut-être aussi choquant, c'est que lui, ça ne le choque pas qu'il puisse y avoir une telle image. Voilà, en fait, c'est quand le capitalisme fait absolument n'importe quoi. Et là, ça se passait en Suisse.
C'est à moi. On va parler un petit peu de médecine. Ça fait un certain nombre d'années que, notamment dans les milieux écolos, un petit peu. Voilà, un petit peu New Age, là où on pense que le magnétisme existe. Voilà, que. Des choses comme ça, pas scientifiques et anti-scientifiques, on s'implante. Il y a eu des campagnes anti-vaccination, avec des conséquences négatives, hein, quand même, des gens qui ont, des enfants notamment, qui ont attrapé des maladies qu'on n'attrapait plus. Et il y avait eu une grosse campagne contre le vaccin de l'hépatite B et contre le papillomavirus humain, avec quelques cas déclenchement de sclérose en place en plaque mis en exergue. Eh ben non. Grosse étude de la part de scientifiques sur 4700 personnes qui ont été vaccinées contre l'hépatite B et contre le papillomavirus humain et qui ont conclu qu'il n'y avait pas de risque de déclenchement de quoi que ce soit d'ailleurs, ni de sclérose en plaque ni d'autres choses. Alors, ces scientifiques, d'abord, c'est un truc à noter, ils sont payés par une mutuelle de santé, donc qui n'a aucun lien avec l'industrie de production de vaccins. Donc on ne peut pas les accuser d'être partisans. Donc eux, ils ont cherché un petit peu dans leur étude à savoir s'il y avait un risque. Ils ne l'ont pas trouvé. Et après, ils se sont posé des questions sur mais pourquoi certaines études ont montré. Alors en fait, il y a deux études qui ont faites sur très très peu de personnes qui ont montré qu'il y avait un petit risque. Alors eux, ils ont deux réponses à ça. Parce que leur propre étude ne le montre pas. Donc en analysant les autres, ils ont deux réponses. Ils ont dit, y a un faible risque de développer une sclérose en plaques dès qu'on a un problème infectieux. Donc un vaccin déclenche une réaction immunitaire. Donc il dit oui, c'est peut-être ça qui a fait que la sclérose en plaques s'est déclarée comme elle se serait déclarée avec une grippe, en fait. Quelque part, ils disent ça, quoi. Bon, c'est une de leurs explications. Ils n'en sont pas vraiment convaincus. Et il y a l'autre, ils disent, par contre, ce qui est plus flagrant, c'est peut-être juste une coïncidence, puisque les personnes qui sont vaccinées sont des personnes aussi qui sont dans le groupe à risque sur lequel on regarde ce qui se passe. Et du coup, on a vu des choses que si on n'avait pas étudié ce groupe-là, ça serait passé. Voilà, il y aurait eu quelques cas déclarés et ce ne serait pas été visible. Donc voilà leur conclusion sur l'analyse des autres études. En tout cas, ça nous rappelle que les vaccins, même si souvent c'est pas le vaccin lui-même, c'est peut-être les adjuvants ou des choses comme ça, qui ont eu une suspicion de dangerosité, globalement le sont pas. Alors il y a toujours le risque individuel de réaction, mais dès qu'on prend un médicament, hein, même avec l'aspirine, hein, vous le savez tous, sauf que les risques sont très très faibles et le risque global est nul, et le bénéfice global est énorme sur les vaccins, parce qu'on a fait disparaître des maladies avec les vaccins. Donc voilà, il ne faut pas mettre ça du côté des choses de médecine productiviste, capitaliste et tout ce qu'on veut. C'est quelque chose de très très important pour se protéger des maladies. Donc voilà, ces scientifiques ont redémontré qu'il n'y avait pas de risque de déclencher des scléroses en plaques avec ces vaccins.
Alors on va poursuivre avant de parler d'Apple avec le patronat. Parce qu'il y a une jolie semaine quand même, puisque hier, Areva a annoncé que son directeur général délégué Philippe Notch prenait les rênes du groupe de manière transitoire, puisque nous avons donc appris le départ pour raison de santé du président du directoire, Luc Oursel. Alors, la prochaine Assemblée Générale décidera du changement de gouvernance. Cette Assemblée Générale va avoir lieu le 9 décembre prochain. Alors, ce fameux Philippe, il a 45 ans, il est chez Areva depuis 2000. C'est un polytechnicien, ingénieur des mines. Et le voilà donc de manière transitoire à la place de Luc Oursel. Oursel qui avait pris la place, hein, je vous rappelle, de Madame Lauvergeon en 2007. En 2011, excusez-moi, il était avec elle depuis 2007. Voilà, donc c'est un peu le jeu des chaises musicales. Et puis, autre méthode, autre réaction, celle du conseil d'administration de Total. Alors là, à Total, les choses n'ont pas traîné. Au lendemain de la disparition du PDG Total, Christophe de Margerie, vous n'avez pas pu rater l'info, nous allons y revenir.
Ouais.
Hein, ouais, tu confirmes. Le conseil d'administration a décidé de réagir très très vite. Alors, il faut dire que l'enjeu financier, comme je suis arrivé, il est énorme. Les communiqués sont tombé très très vite, hein, sur le site internet de Total, et plutôt que d'opter pour une gestion en intérimaire, le conseil d'administration a choisi de désigner dès maintenant un nouveau chef, et ce chef, c'est le patron du raffinage chimie, Patrick Pouyanné. Il a été nommé donc directeur général, et nous allons retrouver à Total l'ancien PDG Thierry Demarais, que nous connaissions puisqu'il a déjà gouverné, géré Total. Alors, il faut savoir que Patrick Pouyanné, il a été préféré à Philippe Boisseau, directeur de la branche marketing et services, qui était pourtant le préféré de Christophe de Margerie, hein, qui l'avait désigné comme un possible successeur. Et puis surtout, on notera que les administrateurs ont décidé de dissocier les fonctions de président et les directeurs généraux. Donc c'est pour ça que vous avez ces deux noms qui apparaissent. Alors Thierry Desmarais, lui, il va rester jusqu'à l'âge limite de 70 ans, c'est-à-dire jusqu'à 2015. Ils vont donc être côte à côte pour gérer cette multinationale. Alors on a déjà eu des réactions enthousiastes, celle de Madame Lauvergeon, dont nous parlions il y a quelques instants, qui est administratrice du groupe, et qui a déclaré que Patrick Pouyanné a toutes les qualités, toutes les capacités pour être un très bon directeur général de Total. Mais alors évidemment, bon, chez les patrons on est tout content, mais on est aussi tout content chez certains syndicats de travailleurs. Dixit, Les Échos, la CFDT a qualifié le nouveau duo dirigeant de solide et rassurant. On apprend que Patrick Pouyanné est un homme qui aime prendre des décisions et avec qui on peut discuter si on a un vrai sujet qui écoute, d'après la CFDT toujours. La CFE-CGC, pareil, hein, applaudit avec les deux mains. Enfin, tout le monde a l'air très très content de cette nomination très très rapide à la tête de Total. Et alors, comme je vous le disais, on n'a pas vraiment pu manquer cette information, puisque lundi, donc dans la nuit de lundi à mardi, Christophe de Margerie, le patron du groupe Total, est donc décédé dans un accident d'avion. Difficile de manquer cette info, je vous le disais, puisque tout de suite, très rapidement, à peine le temps de se retourner, et l'ensemble des médias ont fait leur une sur l'événement, sur un accident, sur un fait divers. Un gars, il est au boulot et il se plante avec un avion. Et bah oui, c'est un riche, donc il fait pas ça avec le bus, avec la bagnole, avec le vélo. Il fait ça en avion, hein, comme d'autres par le passé patrons sont morts aussi dans leurs avions, dans leurs bateaux. Enfin, voilà, donc on a monté cette affaire quand même en épingle hein, dans les médias français. On donnera, nous, la palme ici à France Info, qui n'a pas démérité hein, quand même envers le patronat, il faut le dire. Alors, bon, que le patronat s'autocongratule, bah, ça paraît presque normal. Qu'on a même eu des réactions avec des témoignages, des salariés un peu choqués, surpris, bon, ça peut être presque être compréhensible à la rigueur. Mais alors là, quand même, l'unanimité médiatique, nous, ça nous a filé la nausée, il faut quand même le dire. Ils ont tous célébré le patronat. On a entendu donc que M. de Margerie était un homme extraordinaire, qu'il avait une carrière exemplaire, que c'est un patron hors norme, qu'il était accessible, et puis même qu'on a appris qu'il était plein d'humour, plusieurs fois d'ailleurs. On a pu le lire. Par contre, on a aussi, du coup, célébré Total, mais on a un peu moins célébré ce que fait vraiment Total. Et comment Christophe de Margerie a emmené Total toujours plus loin dans son développement. On rappellera que Total, quand même un pollueur, qui a eu l'évasion fiscale, qui trimballe quand même un petit peu quand même quelques casseroles. Alors, comme je vous le disais, la presse s'est emparée. Alors, on a eu... que ce soit le truc du coin ou le gros quotidien, dans la presse écrite, on s'est éclaté. Alors, par exemple, le Havre Libre titré Total Tristesse. Le Havre Presse, alors c'est la même chose, sauf que la photo est prise le même jour, mais c'est pas tout à fait la même. Mort d'un grand patron, par exemple. Pour vous dire, Havre Libre et le Havre Presse, en haut, il y a un bandeau. D'un côté, ça dit « Attaque commando à Radicatel » et sur l'autre, ça dit « Attaque à main armée à Radicatel ». Mais l'important, c'est que la presse soit libre et indépendante. Sur Paris-Normandie, ça aussi, c'est du truc du coin. Hein. « Mort d'un capitaine d'industrie ». Nous avons eu La Croix qui a titré « Christophe de Margerie, patron Total, mort accidentellement lundi soir à Moscou ». Il avait consacré toute sa vie professionnelle aux géants pétroliers français, donc un bel hommage bien évidemment. Dans Sud-Ouest Pays Basque, Total orphelin de Margerie. Dans la République du Centre, Total perd son patron charismatique. Le Progrès, lui, nous a fait un minuscule titre, mais l'a fait quand même sur la page de une, Christophe de Margerie, plus influent qu'un ministre, nous apprend-on par le Progrès. La Marseillaise nous a titré Total le choc. Nice Matin, c'est le seul que j'ai trouvé un petit peu finalement posé. Alors, ils nous ont titré Christophe de Margerie tué dans un accident d'avion. Mais enfin, où est-ce qu'ils ont été chercher un titre aussi plat? On trouve dans La République des Pyrénées, de Margerie, ses choix ont conforté le Berne, parce qu'effectivement, il faut aussi récupérer l'enfant du pays. Ouest France, Total a perdu un patron d'exception, on continue. La Dépêche du Midi, comment Total surmonte le choc. L'Éclair, le PDG de Total a marqué le Berne, là aussi, on récupère au niveau local. L'Est Républicain, c'était un grand patron. Et puis, dans la presse plus nationale et plus grandiose, nous avons par exemple Figaro, Christophe de Margerie, émotion unanime après la mort brutale du PDG Total. Les Échos qui nous titrent Total sous le choc. Le Monde, Christophe de Margerie, mort d'un patron emblématique. Et Libération qui nous titre un truc complètement... on sait pas bien ce que ça veut dire. Margerie le pétroleur, avec dessous une petite phrase, la mort du patron de Total mardi à Moscou perturbe un secteur énergétique français en pleine transition. On attendait de Libé peut-être un petit peu plus que ce ramassis sur le patronat. Voilà, donc tout le monde est d'accord. C'était un grand monsieur.
Voilà, alors non seulement il y a eu les journaux hein, qui ont fait allégeance au patronat, mais ça on le savait déjà, les journaux dominants, les médias dominants globalement. On a eu les hommes politiques aussi, de droite comme de gauche, enfin du Parti Socialiste, puisqu'on ne peut pas dire que le Parti Socialiste soit à gauche, qui sont très amoureux du patronat et notamment de ce patron. On rappellera quand même que donc il est mort dans le déplacement en rentrant chez lui, donc c'est ce qu'on appelle un accident du travail, hein, quand on meurt dans le déplacement dans son monde. À son boulot ou qu'on revient de son boulot. Donc il est mort dans un accident du travail. C'est à peu près 600 morts par an. Grosso modo, en moyenne, avec les vacances, tout ça, il y a 3 personnes par jour qui meurent dans un accident du travail. 365 divisé par 3, ça fait 2. Pardon.
Non, moi j'ai cru que tu avais ôté les vacances et que tu avais réussi à ressouder tout ça.
2 par jour, il y en a qui meurent. Donc ce jour-là, statistiquement, il y a Margerie qui est mort et il y a un autre salarié en France qui est mort d'un accident du travail. On en a parlé Non.
Et je te rappelle qu'ils étaient quatre, hein, déjà dans l'avion.
Bon,
hein.
Ouais, mais les autres, on s'en fout.
Voilà.
Bon,
exactement.
Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tous ces médias dominants pour les politiques, ils inventent une discrimination sur le niveau social des gens. C'est-à-dire que la personne qui est salariée, quand elle meurt d'un accident du travail, on s'en fout, on n'en parle pas, on le méprise et on est même peut-être même bien content qu'il meure, hein, sinon on dirait qu'on n'est pas content, hein, qui ne dit mot qu'on sent. Et par contre, quand c'est un patron qui meurt, là, c'est triste. Et ça nous rappelle effectivement que ces gens-là sont vraiment du côté des patrons et jamais du côté des salariés, ce qui explique beaucoup de choses dans leur politique, dans leur manière d'être, et des choses comme ça. Donc voilà. Et on rappelle aussi que la mortalité chez le patronat est beaucoup, beaucoup plus faible que chez les salariés, que l'espérance de vie chez le patronat... c'est entre 5 et 10 ans de plus qu'un ouvrier, c'est quand même énorme, hein, vous imaginez. Donc, grosso modo, le patronat fait mourir ses salariés, par contre, les salariés font rarement mourir le patron. Hein, ça passe toujours dans l'autre sens. Parce que M. de Margerie, en vendant son pétrole, il a une partie de ses salariés qui ont des maladies professionnelles dans son entreprise, dont il est responsable. Donc, ce patron, il a du sang sur les mains. Bon, je vous parle même pas que c'est une des entreprises qui détruit le plus la planète en France, etc. Mais des choses comme ça. Mais et de ses actions dans des pays, dans des dictatures, parce qu'il était très ami avec les dictatures. Hein. C'est pas un démocrate, Monsieur de Margerie. Pour preuve, il était patron d'une entreprise qui fonctionne comme un État totalitaire. C'était pas une SCOP, hein, avec les salariés qui votent, etc. Pas du tout. Donc voilà, à vouloir en faire un être exceptionnel, c'est vouloir valoriser le système hiérarchique, donc la dictature, système totalitaire qu'il y a dans la majorité des entreprises françaises. Et voilà, c'est juste un truc absolument à gerber, horrible, hyper méprisant pour tous les autres, tous les salariés qui, eux, galèrent ou galèrent pas. Hein. Il y en a plein qui galèrent pas, mais ceux qui vont avoir des maladies professionnelles, ils feront pas la une des journaux, ils seront pas aidés et on dira jamais que ce sont des grands salariés, comme on a dit que c'était un grand patron. Voilà. Et pourtant, c'est un patron qui avait quand même les mains pleines de sang. Vu le nombre de salariés chez Total, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont des maladies professionnelles à cause de l'entreprise. Donc voilà, c'est quand même triste. On va pas se réjouir de la perte de quelqu'un qui a les mains sales, mais on va pas non plus pleurer à chaque fois qu'il y a un patron qui meurt. Ça arrive rarement, vous allez me dire. Et on va plutôt être triste pour tous les salariés qui souffrent et qui meurent de maladies professionnelles.
Ouais, alors il y en a un autre qui fait la une, c'est le conducteur du chasse-neige, Vladimir Martinenko, hein, donc il était bien ivre. Hein,
c'est un simple salarié.
Voilà. Ce qui, moi, m'a choqué dans toute cette affaire, c'est que ça a pas l'air d'avoir d'ailleurs bien choqué les médias, les grands médias français, hein, c'est que les télévisions russes ont diffusé les images de son interrogatoire. Depuis quand quelqu'un qui est en garde à vue, on diffuse comme ça sa photo, puis des vidéos.
T'es en Russie là.
Ouais, je suis en Russie peut-être, mais il faut quand même savoir que le bureau d'enquête et d'analyse français est actuellement aux côtés de ses confrères et collègues russes pour analyser cette boîte noire. Hein. C'est pareil, la France a mis les gros moyens pour s'assurer qu'il y ait une enquête correcte. Sauf qu'à côté de ça, on a quand même un homme qui en prend plein la gueule. Voilà, comme tu le dis, c'est aussi un salarié. Alors, à quoi cette enquête elle devrait servir et pas juste à glorifier le patronat, c'est que a priori il y avait quand même eu des petits problèmes sur cet aéroport, que des compagnies aériennes s'étaient plaintes des difficultés à faire naviguer leurs avions, qu'il y avait peut-être des problèmes avec la tour de contrôle, le personnel et d'autres, et que l'enquête ce serait bien qu'elle aille un petit peu sur ce côté-là, si vous voulez, quitte à ce qu'il y ait une enquête, sauf que pour l'instant ce qui intéresse les médias français c'est évidemment la mort, hein, parce que la mort quand même c'est vachement médiatique, et puis alors en plus quand on peut idolâtrer le mort, et là on sait encore mieux. Voilà, mais je suis pas sûre qu'on ait les résultats de ces enquêtes jusqu'ici, parce que je pense que dès lundi prochain, 18h, 19h, 20h, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura eu les journaux du soir, allez peut-être jusqu'à mardi midi, on va encore parler de Margerie, mais sinon ça va s'arrêter, puisque ces funérailles ont lieu lundi prochain, et que je pense que dès mardi ou mercredi, on le mettra à côté, puis de toute façon on n'en parlera plus, on passera au suivant. Parce que c'est comme ça que ça marche, les médias aussi.
Alors on va rester avec le patronat. Vous connaissez tous la marque Apple, vous savez, c'est cette marque qui vend des produits plus chers que les autres, plus fermés que les autres, hein, rien n'est accessible, c'est toujours difficile, tout ça. Et cette marque, elle vient de battre un nouveau record du produit le plus cher du monde. Hein, alors on savait que les téléphones n'étaient pas loin d'être les plus chers, hein, déjà. On ne sait pas, on n'en a pas, mais bon, voilà, on imagine bien, on voit les pubs des fois. Mais là, ils viennent de battre un record. Alors, vous allez me dire, c'est une blague, parce qu'en fait, c'est une vente aux enchères sur un des premiers ordinateurs que Apple a conçu. Steve Wozniak, très exactement, dans son petit garage qu'il a fabriqué de ses mains, un Apple 1. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, peut-être pas. Moi, je suis trop jeune pour en avoir vu. Moi, j'ai connu l'Apple 2, mais pas l'Apple 1. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup assemblés par les propres mains des fondateurs d'Apple. Il y en a eu une cinquantaine, a priori. Donc, il était en parfait état avec une carte mère intacte, un clavier d'époque, un écran d'époque, une alimentation électrique. Ils avaient fabriqué eux-mêmes dans une boîte en bois. Enfin, voilà. Deux magnétophones, parce que c'est à l'époque il n'y a pas de disque dur. Hein, deux magnétophones, non, peut-être pas. Enfin, en tout cas, des magnétos pour enregistrer les programmes. Tout ça a été vendu 905 000 dollars. C'est quand même pas mal, hein. Moi, je dis, ceux qui achètent ces trucs comme ça, ils pourraient donner un peu d'argent pour aider Radio Canu à avoir un local, parce que ça fait cher un ordinateur qui marche. Alors, il doit fonctionner, mais on ne peut rien en faire, hein, de cet ordinateur. Alors, il a été racheté par une fondation, par le musée Henry Ford, très exactement, qui est dans le Michigan, qui est un musée sur l'histoire des sciences. Du coup, ça se comprend quand même d'acheter ça et pour mettre dans un musée. Regardez, on a mis un Apple 1 dans un musée. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans un musée des sciences où il y avait un Minitel. Ouais, ça se met dans un musée. Par contre, le Minitel, ils ont dû l'acheter 5 euros. Donc là, il vaut mieux mettre un Minitel pour dire que c'est de l'histoire pré-internet, alors que là, l'Apple 1 à 905 000 dollars, ça fait quand même un petit peu cher. Mais c'est pour rappeler que Apple reste, de toute façon, un truc pour les riches, parce que c'est toujours des produits plus chers que les autres et jamais ouverts. Mais ça, c'est un autre débat. Vous allez me dire, son concurrent Windows n'est pas plus ouvert, mais non, mais on rappelle qu'il y a des concurrents ouverts, libres, gratuits, free. Vous connaissez ces mots? Pas la marque free. Hein. Donc voilà, un peu de Linux dans l'air. On poursuit avec une petite info. C'est moi qui vais continuer sur la répression anti-OL Land. Alors la mauvaise nouvelle, hein, c'est que l'OL a eu plein d'argent, hein, à cause de l'organisation d'une Coupe d'Europe et que le stade se construit toujours. Il y avait un personnage un peu drôle, un peu bizarre, un peu à la rue, qui s'appelle Eric Pététin, qui s'appelle l'Indien, on l'appelle l'Indien, qui est de toutes les luttes sur les projets complètement débiles au niveau écologique et qui en général se met en avant en montant, en faisant des trucs pour se faire arrêter, grosso modo, hein, il a plein d'arrestations derrière lui. Il avait fait ça, donc il était monté sur une grue sur le chantier de Décines, bien évidemment là où se construit le stade des Lumières. Et il avait été arrêté, il était poursuivi par le tribunal correctionnel de Lyon. C'est pas le seul, il y en a plein d'autres qui avaient fait ça. Les autres avaient eu un rappel à la loi. Lui, comme il s'est déjà fait repérer, ils lui ont mis une condamnation. Donc soit 900 euros d'amende, soit 90 jours de prison pour lui apprendre à ne plus faire le malin. Grosso modo, hein, c'est ce que disait Étienne Tête, son avocat. Ça, je le cite, c'est un truc pour mettre les pauvres en prison et les riches dehors. Oui, c'est un peu ça. Puis surtout, c'est un mec qui embête à chaque fois qu'il y a un truc comme ça. Il se fait voir, il monte sur les trucs, donc il embête l'État. Donc les gens qui embêtent l'État, on les met en prison. Voilà, grosso modo, il va peut-être essayer de payer, mais je suis pas sûr qu'il y arrive. Donc voilà, une petite condamnation alors que le stade continue de se construire, malheureusement.
Alors on va revenir sur les malheurs de TF1 et M6.
Parce que,
et souvent, la justice, quand même, c'est pas juste. Et TF1 l'a pris un petit peu assez dépens, puisqu'ils n'ont pas réussi à avoir gain de cause. C'est-à-dire que le groupe TF1 avait saisi le Conseil d'État en référé pour suspendre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui, le 29 juillet, avait refusé le passage de LCI de la TNT payante à la TNT gratuite. On vous avait raconté tout ça. Et le Conseil d'État a rejeté cette demande de suspension en référé. Non seulement il y a ça, mais en fait, le Conseil d'État est allé plus loin. C'est drôle. puisque le Conseil d'État recommande instamment au groupe de ne pas mettre en œuvre sa menace de fermeture de la chaîne au 31 décembre 2014. Le Conseil d'État considère, je le cite, qu'aucune contrainte juridique n'impose à LCI de cesser son activité ou de la transformer profondément. À cet horizon, que les importantes difficultés financières de LCI sont anciennes et son déficit aurait de toute façon été encore accru à court terme par un passage au gratuit, et qu'enfin, on peut sérieusement penser que seule une décision définitive du Conseil d'État pourrait donner à la chaîne la sécurité juridique nécessaire à la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de diffusion. Globalement, ils sont coincés avec leur chaîne, alors qu'ils voulaient tenter de s'en débarrasser à TF1. Alors, il faut savoir que, de fait, le plan présenté par la direction de TF1 fin septembre est suspendu. Hein, on vous rappelle que le groupe TF1 avait décidé de se séparer de 148 postes, 60% des effectifs. Donc, elle est bien embêtée, hein, TF1, avec son LCI dont elle sait pas quoi faire et qu'en plus elle veut plus rien y mettre du pognon. Puisqu'elle, son plan, elle se disait qu'en 2019, LCI, en passant sur la TNT gratuite, aurait enfin eu l'équilibre financier qu'elle attendait et qu'elle espérait. Le Conseil d'État a l'air de penser que 2019, c'est un peu loin. Et puis, il y a une réponse sur le fond à donner sur l'existence ou non de LCI et de ses transformations. Alors la difficulté aujourd'hui du groupe TF1, c'est que les contrats de diffusion de LCI vont arriver à terme fin 2014. Donc il va falloir quand même que le groupe se mette à renégocier, au moins pour quelques mois, la distribution de sa chaîne, ce que le groupe pas l'air bien motivé à faire. Et puis surtout, TF1 est poussé un peu pour reconsidérer les différentes offres de rachat et de rapprochement. On vous rappelle que les actionnaires, les trios d'actionnaires du Monde avaient proposé à TF1 de reprendre LCI. Alors c'était une lettre un peu injurieuse, hein. Il n'y avait pas vraiment de montant, on connaissait pas bien les conditions. C'était un peu l'euro symbolique, hein. On le sentait un peu venir comme ça. Il y avait Le Figaro, hein, qui était aussi lancé dans des discussions sur un partenariat. Donc on va voir un peu ce que TF1 veut faire, mais de toute façon ils n'ont pas bien le choix, ils sont obligés de continuer à maintenir cette chose. En même temps ils sont un peu obligés de rien parce qu'ils peuvent continuer simplement à laisser couler, à laisser les salariés dans une situation toute pourrie. Mais il n'y a pas que TF1 hein, qui est en difficulté sur ces questions, il y a M6, dont vous avez raconté aussi. Alors M6, eux, ils avaient été voir le Conseil d'État et ils avaient demandé une compensation puisqu'ils avaient été privés d'une chaîne sur la TNT gratuite. Alors ils avaient dit, nous on veut que l'État il nous donne des sous, puisqu'on peut pas tout avoir. Ils ont demandé quand même près de 99 millions d'euros, heureusement pour nos pépettes à nous. Le Conseil d'État a jugé que la demande de M6 était infondée et qu'ils n'avaient pas à payer la chaîne. Alors, ce que le Conseil d'État dit, c'est que de toute façon, M6, le groupe M6 n'a pas vraiment établi le budget. C'est-à-dire, ils ont demandé 99 millions, mais finalement, ils ont pas bien budgétisé la chose, si vous voulez. Il y a pas bien des lignes, on sait pas bien d'où ce chiffre il sort, à part du chapeau. Et puis le Conseil d'État estime qu'il n'y a pas de caractère de gravité, enfin bon, ça ouvre pas droit à réparation. Donc M6, il se retrouve aussi derrière planté dans l'eau, tout ça. Donc c'est quand même une belle affaire la TNT, puisque entre les chaînes qui y sont, qui veulent s'y accrocher très fortement, celles qui veulent plus du tout y être, puis celles qui espèrent pouvoir y rentrer un jour, plus les nouvelles créations. C'est quand même beau la télévision. Moi, je vous le dis, ça fait plein d'images de partout.
Et on poursuit avec une petite info sur le TGV qui vient de la Cour des comptes, qui s'énerve contre les projets de lignes à grande vitesse et contre la gestion du TGV. Donc, pour les citer, ils disent que les prévisions de trafic sont en général surestimées sur les nouvelles lignes, la grande vitesse n'est pas toujours pertinente, la rentabilité est souvent insuffisante, etc., etc. Grosso modo, ils accusent la SNCF et Réseau Ferré de France d'en faire trop sur les TGV, systématiquement sur les TGV. On construit que des lignes TGV. Eux, ils estiment que voilà, c'est surdéveloppé. Alors, ils rappellent quand même que quand il y a des projets de nouvelles lignes, les prévisions sont toujours surestimées. C'est-à-dire qu'ils font... Alors, c'est quelqu'un, hein, sur, on en connaît une ici, la ligne Lyon-Turin, où les estimations sont bien supérieures à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qu'on pourrait imaginer en étant réaliste. Donc, effectivement, grosso modo, ça veut dire qu'ils mentent, hein, les gens.
Oui, moi, j'avais des chiffres, par exemple, dans les années 80, donc la ligne à grande vitesse Atlantique, le taux de rentabilité était à pratiquement 24%. Dans les années 90, il est autour de 12%. Et en fait, il n'a jamais stagné à 24%. C'est-à-dire qu'il est descendu direct, ça n'a jamais été atteint. Mais vous pouvez toutes les prendre, c'est tout comme ça. La seule différence, c'est que maintenant, plus on avance dans le temps, plus ils partent bas quand même dans les taux de rentabilité. Et même là, en partant très très bas, comme par exemple la ligne à grande vitesse Méditerranée, hein, sur la fin des années 80, on part, on est à autour de 20% de rentabilité. Et à la fin des années 90, on est à moins de, on est autour de 5%. Vous voyez, donc c'est quand même très très bas, quoi.
Oui, alors il rappelle toutes ces aberrations-là. Il y a une idéologie derrière tout ça. C'est un truc très politique, le TGV. C'est pour montrer le fleuron de l'industrie française qui explique quand même tous ces mensonges autour des projets, qu'on les finance systématiquement même quand il n'y a pas d'argent, ce qui fait que le réseau ferré de France est ultra endetté.
Oui, et puis les maires, ils veulent tous leur TGV,
voilà,
aussi.
Voilà. Et puis qui délaissent, donc du coup, on échange les autres lignes. Alors maintenant, il y a les régions qui financent les lignes locales, mais du coup, on a quand même beaucoup perdu sur le transport ferroviaire ces dernières années. Et à part les lignes TGV, il reste et les lignes régionales, les TER, le reste, on a presque plus rien en intercity ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment le parent pauvre du train, tout ce qui est non grande vitesse. Et il y a l'idéologie d'aller vite systématiquement. Des fois, on gagne une demi-heure, on est passé en ligne à grande vitesse, et pour gagner cette demi-heure, on a doublé la consommation d'énergie, par exemple. Parce que c'est énorme de gagner quelques kilomètres heure à cette vitesse-là. C'est énorme en coût énergétique. Voilà. Donc, ils nous rappellent tout ça. Puis, par contre, ils ont des conclusions pourries. Hein. Ben, faut dire un truc, c'est que la Cour des comptes, ils regardent que l'argent. Donc l'impact environnemental, eux, ça les dépasse, ça les intéresse pas, ils s'en foutent même carrément, puisqu'ils disent que il faudrait développer le mode de transport longue distance routier, mettre des cars. Tiens.
C'est Monsieur pas... Macron, nous en avons parlé la semaine dernière. Hein.
Ah oui, c'est l'anti-écolo Macron, il a dit ça l'autre jour.
Hein, il avait dû un peu certainement parcourir avant. Ce rapport avant.
Ouais. Ouais. Donc du coup, effectivement, il rappelle que développer les lignes de car, ça fait baisser les prix, ça fait de la concurrence, etc., tout ce qu'on veut. C'est ultra destructeur de l'environnement, mais ça, personne ne le dit. Alors que... Il faudrait plutôt redévelopper le train, hein, qui est beaucoup moins destructeur, qui est beaucoup plus régulier. Alors on rappelle quand même qu'il y a énormément moins d'accidents sur les lignes de train que sur les routes. Donc ça vaut le coup aussi. Alors le rapport dit pas ça, hein, le rapport dit faut mettre des bus parce que voilà, pour faire la concurrence à la SNCF qui du coup va encore fermer des lignes. Donc voilà, ils ont quand même une mauvaise gestion des choses, ils dénoncent des choses de manière assez réaliste. Par contre, quand il faut prendre des décisions, eux, ne voyant que l'argent, ils se posent aucune question sur l'environnement et sur la destruction de la planète. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. On rappelle en plus que quand on développe des lignes de car, les lignes de car vont prendre les autoroutes, donc elles vont enrichir des entreprises privées, alors que si on développe des lignes de train à la place, c'est une entreprise publique, hein, qui gère les lignes de train, le réseau ferré de France. Du coup, il y a un vrai choix idéologique aussi de la Cour des comptes, de dire passez dans le privé, vous enrichirez le privé, et laissez le public mourir dignement, ou pas dignement d'ailleurs. Donc voilà, c'est quand même toujours très orienté, les rapports de la Cour des comptes.
Et puis on sait aussi que sur le train et les courtes distances, ça touche aussi beaucoup de travailleurs qui doivent se déplacer, et qu'il est quand même largement plus agréable de monter dans un train, sauf quand évidemment ce train est complètement bondé, ce qui arrive beaucoup puisqu'il y a moins de trains, où les horaires sont un peu modifiés, ce qui est en service à personne, et que de voyager en prenant un bus, voilà, même s'il est confortable, c'est quand même pas non plus le même rapport au déplacement quand on fait les allers-retours tous les jours.
Oui. Alors on va faire maintenant l'agenda. On va commencer par un rassemblement qui a lieu demain à 18h devant le palais de justice des sept colonnes, là, celui qui est sur les quais, pour qui est Romain Rolland, pour demander la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Hein, ça fait des années que plein de gens demandent la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui devrait être dehors, hein, on le rappelle, mais l'État ne veut pas. Hein. Bon, grosso modo, c'est les politiques, hein, qui ont décidé la dernière fois de ne pas signer l'autorisation de sortie de prison de Georges Ibrahim Abdallah. Donc voilà, et ensuite, suite à ce rassemblement, à 19h30, dans le même quartier, c'est dans le 5e, à la Maison des Passages, qui est 44 rue Saint-Georges, donc c'est à 19h30, il y aura une rencontre, débat et projection du film de Samir Abdallah qui s'appelle La guerre après la guerre. Et en invité, il y aura notamment Mireille Fanon Mendes France, qui est experte auprès de l'ONU et qui doit connaître le cas de Georges Ibrahim Abdallah. Donc ça, c'est demain soir, vendredi 24 octobre, à partir de 18h au Palais de Justice, 19h30, Maison des Passages. Ensuite, manifestation ce week-end. Il y en a plusieurs, il y en a plein. Il y en a une qui est à 15h, place Bellecour, donc à Lyon, pour soutenir les combattants kurdes de Kobané. Hein, la résistance continue donc à Kobané. Et il y a voilà, un appel à manifestation. Il y a aussi un appel, là ça s'adresse plutôt aux politiques locales, c'est-à-dire grosso modo là aux politiques français, d'envoyer des armes à la résistance kurde. Demander à la Turquie d'ouvrir la frontière correctement pour faire passer les combattants et les armes et les aides humanitaires. Que le PKK, hein, le parti d'extrême gauche kurde, soit enlevé des organisations terroristes de l'Union européenne, parce qu'ils sont toujours dedans, ce qui est honteux. Et la reconnaissance d'un statut pour le Rojava libre et autonome, cette région. Mais alors là, par contre, ils en demandent beaucoup quand même, hein, parce que y a les Turcs, ils veulent pas. Hein.
Ils ont raison, il faut toujours demander beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Pour obtenir
beaucoup,
un petit peu.
Pour tenter d'en obtenir quand même un peu.
Voilà, manif de soutien aux combattants kurdes à Kobané, 15h, place Bellecour. Ce samedi, on sera le 25 octobre. Alors ce samedi, si vous voulez vous déplacer, il y a plusieurs manifs en France. Il y en a notamment une contre le barrage de Sivens. Donc le rassemblement est à midi à Sivens, donc c'est une nouvelle zone à défendre, une ZAD, la ZAD du Testet très exactement. Ça fait un an maintenant que la lutte contre ce barrage complètement aberrant qui va détruire une partie importante de terre naturelle et agricole. Donc voilà, il faut lutter, c'est rendez-vous à Sivens le 25 octobre, il y a du covoiturage je crois qui part de Lyon, vous pouvez vous renseigner sur différents sites internet.
Et puis on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 30 octobre, ça sera au Cafeton à partir de 19h. Le Cafeton, c'est 44 rue Burdeau sur les pentes de la Croix-Rousse. Alors pourquoi il faut venir? Bien parce que c'est une soirée de soutien à Radio Canyon. C'est l'occasion de nous rencontrer, d'échanger. C'est une occasion pour vous comme pour nous, parce que nous on est derrière nos micros. Mais vous pourrez voir nos tronches, mais nous on pourra voir aussi les vôtres. Il faut pas se leurrer, c'est un vrai échange. Alors pourquoi il nous faut nous soutenir? Eh bien parce que vous allez pouvoir soutenir un média libre avec une... Donc c'est une radio avec une vraie fréquence, là, le célèbre 102.2, c'est une radio libre, sans salariés, sans chef, sans pub, que des volontaires passionnés. Et puis on aimerait bien se trouver chez nous stable pour que les générations futures, parce que nous Radio Kenyu, vous savez, on voit loin, on ne s'arrête pas là juste demain, la semaine prochaine ou là à la fin de l'année, non. On pense dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça sera peut-être plus nous qui serons derrière ces micros. Peut-être qu'on sera encore là et peut-être que tu auras encore un peu moins de cheveux, Laurent. Mais toujours est-il que on a envie de rendre les choses tranquilles.
Oui, ça fait déjà 37 ans qu'on est là, donc on voudrait durer encore au moins 37 ans.
Bah ouais, je vois pas pourquoi. Et puis c'est important, parce que comme je vous le disais, on a une fréquence, on a le 102.2, on veut la garder. C'est pas aujourd'hui essayer de monter une nouvelle Radio Canyu en allant voir le CSA puis en lui disant bonjour, on voudrait une fréquence. Bah, je pense que sur les méthodes que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire pas de salariés, pas de chef et pas de publicité, et puis alors avec le ton en plus qu'on a, c'est-à-dire il y a nous, les infos, mais tous ceux et toutes celles qui font des émissions musicales, qui passent des choses que vous êtes pas prêts d'entendre ailleurs, qui sont là toutes les semaines. Voilà, c'est du boulot aussi pour nous, mais on est content d'être derrière ce micro et on a envie que ça continue. Et puis nous, on est aussi des auditeurs et auditrices de Radio Canyu et on a aussi envie de pouvoir continuer à écouter Radio Canyu. Donc le jeudi 30 octobre au Cafeton, faut venir, c'est à partir de 19h.
Voilà, c'est un endroit où on pourra discuter, vous nous reconnaîtrez, on aura peut-être des t-shirts Radio Canu. Et ou pas d'ailleurs, et il y aura de quoi boire.
Et puis ça sera tout ça au son des bandes de continue de Radio Canu, hein, elle aussi.
Qu'on mettra en fond.
Ouais. Tout aussi célèbre hein, que les animateurs et animatrices de Radio Canu préparent assez régulièrement hein, pour vous proposer toujours plus de musique pendant qu'il n'y a pas d'émission à l'antenne.
Et nous, le Canu Info, on y sera.
On y sera.
On fera un Canu Info quand même, qu'on va enregistrer une heure avant.
Ouais, on pense que si nous avons la possibilité de vous faire tout ça, on vous fera très très exceptionnellement, parce que ça ne risque pas de se reproduire, un Canu Info en différé, comme on dit quand on est
d'une heure, hein.
Tendance. Ouais. Ah oui, mais le différé, tu sais, ça peut être 3 secondes, c'est arrivé d'ailleurs dans certains événements.
Oui, ça permet de contrôler ce que les
voilà, exactement.
Et nous, c'est pas ça.
Et nous, c'est pas ça. Nous, ce sera juste pour bien être avec vous. Voilà, il faut se mettre en quatre pour pouvoir soutenir Radio Canu. Voilà, c'est l'événement. Donc je lis 30 octobre au Cafeton, c'est la semaine prochaine.
Voilà, puis un petit concert à annoncer, le groupe de rap militant politique Kima, qui fait sa dernière date, ce dernier concert avant Split, avant séparation. Donc ça sera le vendredi 31 octobre au Valseuse, sur les pentes de la Croix-Rousse, à 20h, 21h très exactement.
Et bien pour ce soir c'est tout, on va vous laisser et nous donc on se retrouve en chair et en os la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas que les Canu Info c'est tous les soirs de la semaine 19h-20h et on vous laisse tout de suite avec la petite cuillère.
La révolution passera par le vélo, camarades. Ah, la bicyclette.
Radio Canu, la rebelle.